vous est présenté par Valentin Bertrand. Bonjour Valentin.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le Royaume-Uni sur le point d'expulser des migrants vers le Rwanda. Les parlementaires britanniques ont approuvé cette nuit la mesure censée faire baisser la pression migratoire. Explication en début de journal.
Le reportage en Cisjordanie auprès de villageois palestiniens pris pour cible ces derniers jours par des colons israéliens.
Première nuit sous couvre-feu pour les mineurs de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, une mesure plutôt respecté. Et juste après ce journal, le billet politique de Jean Lemarié, aujourd'hui consacré aux élections européennes et à l'écologie, un thème marginal dans la campagne. Expulser les migrants arrivés au Royaume-Uni vers le Rwanda. Les parlementaires britanniques viennent d'approuver ce projet de loi du gouvernement conservateur de Rishi Sunak. Le Premier ministre britannique voit là le moyen de dissuader des dizaines de milliers d'étrangers d'entrer illégalement dans le pays après avoir traversé la Manche sur des embarcations de fortune. Après 2 ans de tractation, le 10 Downing Street affirme désormais que cette mesure s'appliquera d'ici l'été. Les précisions à Londres de Richard Place.
Dans un peu moins de 3 mois, des réfugiés arrivés illégalement au Royaume-Uni seront envoyés au Rwanda. Pas leur pays d'origine, mais Kigali a accepté de les recevoir moyennant finance. On parle là de centaines de millions d'euros. Cette fois, le Premier ministre britannique affiche sa fermeté et sa certitude. Rishi Sunak tape du poing sur la table.
Depuis près de 2 ans, nos adversaires ont utilisé tous les recours possibles pour bloquer les vols et laisser venir les bateaux. Mais trop, c'est trop. Plus de tergiversations ni de retard. Ces avions vont au Rwanda.
Il oublie un peu vite que les contestations venaient aussi de son propre camp, déchiré par ce projet depuis des mois. Sunak balaie également ce qui empêchait jusqu'ici le moindre vol, la justice, la Cour suprême britannique et la Cour européenne des droits de l'homme. Les recours seront examinés, il s'y engage, il a même déjà prévu 25 salles d'audience et 150 juges. Mais le nouveau texte est inattaquable, il en est persuadé. Les avions sont réservés ainsi que les créneaux horaires sur la piste de décollage. Sunak, déterminé, voit dans ce dispositif le moyen de décourager les immigrés qui arrivent illégalement. Il espère aussi reconquérir des voix. Les conservateurs sont au plus bas dans les sondages alors que des élections générales doivent se tenir avant la fin de l'année.
Comme l'a fait le Royaume-Uni, les États-Unis envisagent à leur tour de sceller un accord de sécurité bilatéral avec l'Ukraine, c'est-à-dire un soutien sur le long terme. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a annoncé hier alors que le Sénat américain s'apprête à entériner aujourd'hui l'envoi d'une aide de 61 milliards de dollars. Les autres paquets d'aide destinés à Taïwan, Gaza et Israël seront, eux, examinés d'ici la fin de semaine. Les tensions retombent un peu en Cisjordanie. Israël pense avoir arrêté le responsable du meurtre d'un berger israélien de 14 ans, tué la semaine dernière au nord de Ramallah alors qu'il faisait paître ses moutons. Son décès a depuis entraîné un déchaînement de violence contre des Palestiniens. Plusieurs villages ont été attaqués. De quoi creuser un peu plus le fossé entre les colons israéliens et les Palestiniens, rencontrés par nos envoyés spéciaux Omar Waman et Eric Audra.
Abou Ali est encore sous le choc. Une partie de son troupeau de moutons a été décimée par cette attaque dimanche soir dans son village de Bourka, à l'est de Ramallah.
Les colons étaient une quarantaine. Ils étaient escortés par des soldats israéliens. Ils ont commencé par nous jeter des pierres. Ensuite, ils sont entrés dans la grange. Ils ont tué plusieurs moutons. Regardez, il y en a un mort ici. Et puis ils sont repartis avec plusieurs bêtes. Ils ont agi en toute impunité.
Une semaine plus tôt, c'est le village voisin de Beitin qui a été le théâtre d'un raid lancé par des colons. Son maire adjoint, Abou Mahfouz.
Les colons sont arrivés tôt le matin sur ce pont. Ils étaient entre 40 et 50. On s'est défendu. On n'avait pas d'autre choix. On a déploré un mort et un blessé.
Et la personne décédée s'appelle Omar, 17 ans, venu prêter main forte pour repousser cette attaque. Son père Ahmad raconte les circonstances de sa mort.
Lorsque les colons ont commencé à évacuer le village, l'un d'entre eux a sorti son arme et a fait feu sur mon fils. Il a été touché à la tête et il est mort. Voilà ce qu'il s'est passé, c'est un meurtre. Il n'y a pas de justice.
Selon un décompte des Nations Unies, depuis le 7 octobre, les colons ont lancé plus de 700 attaques contre les Palestiniens en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est.
Reportage réalisé dans les villages au nord de Ramallah. Guillaume, avec votre invité ce matin, vous épluchez les comptes de la France et les raisons de son dérapage budgétaire avec un déficit de 5,5% l'année dernière. Et bien dans ce domaine, le vote aujourd'hui du Parlement européen réuni à Strasbourg s'annonce décisif. Les eurodéputés doivent se prononcer sur la réforme du pacte de stabilité européen, ces règles qui fixent la limite du déficit public des États membres à 3% du PIB et la dette à 60%, un cadre suspendu en 2020 avec la crise Covid, mais dont le retour est annoncé en 2025. Dans ces conditions, Angélique Bouin, la France ne devrait pas échapper à une procédure de déficit excessif.
Le gouvernement l'a confirmé, le déficit de la France sera encore hors des clous européens et cela jusqu'en 2027. Cette année, Bercy table sur un déficit public de 5,1% du PIB et sur un endettement de l'État de 112%. Conséquence, la France devrait être placée par la Commission sous procédure de surveillance budgétaire au printemps. Mais nous ne serons pas les seuls, souligne-t-on à Bercy. 10 à 12 États membres de l'UE fragilisés par le Covid et la crise énergétique seront concernés. La France devra alors réduire annuellement son déficit public et discuter avec la Commission à l'automne d'un plan de désendettement étalé sur 4 ans, avec une sorte de bonus tout de même si le gouvernement fait des réformes et investit dans des secteurs jugés prioritaires comme les transitions écologiques, énergétiques, numériques ou bien la défense. Alors cette période d'ajustement de la dette peut être prolongée de 3 ans. C'est la grande nouveauté de ce pacte de stabilité, une trajectoire de désendettement plus à la carte, plus adaptée à chaque État et plus souple, elle prendra en compte d'éventuelles circonstances exceptionnelles. Mais avec une inconnue tout de même, on ne sait pas encore précisément comment la Commission appliquera les nouvelles règles et si elle imposera les pénalités financières prévues en cas de dérapage, des amendes moins lourdes mais du coup plus crédibles. Dans la version pré-Covid, les sanctions prévues n'ont jamais été appliquées. On ne frappe pas au porte-monnaie un État sans le sou, explique une source européenne qui estime que cette règle non écrite devrait perdurer.
Angélique Bouin à Bruxelles. L'Union européenne qui durcit également le ton face à TikTok Lite et son système de récompenses jugé addictif. Le réseau social chinois, sous le coup d'une enquête, pourrait être contraint d'arrêter dès jeudi la distribution de bons d'achat à ses utilisateurs en fonction de leur temps d'écran.
8h07 sur France Culture, la suite du journal de Valentin Bertrand. Première nuit sous couvre-feu pour les mineurs de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.
Oui, c'est la mesure choc décidée par le ministre de l'Intérieur pour endiguer une flambée de violence. Ce couvre-feu va s'appliquer tous les soirs pendant 2 mois, mais uniquement aux mineurs. Ils ont interdiction de sortir de 20h à 5h du matin sans la présence d'un adulte. Boris Loumagne.
On y va, les gars.
Il n'a pas vraiment compris ce qui lui arrivait, cet adolescent de 14 ans, un sandwich à la main sur la grande place de Pointe-à-Pitre. Contrôle d'identité par la brigade anticriminalité, il est 21h, il est donc en infraction.
Voilà, c'est un jeune de 14 ans, qui n'était pas au courant, la maman arrive.
Le préfet de Guadeloupe surveille l'opération.
Pas de raison de l'embêter, il va rentrer chez lui et ses parents viennent le chercher.
Pas d'amende de 750 euros pour cette fois, pédagogie pour ce premier soir de couvre-feu, qui aura d'ailleurs été très calme, un seul mineur identifié. Satisfaction donc du patron de la BAC.
L'information a été entendue, donc je pense que les parents ont pris leur responsabilité de ne pas laisser leurs mineurs traîner dehors.
En revanche, pour les mineurs qui ne traînent pas dehors, le couvre-feu est vécu comme une injustice. Exemple avec ces deux ados croisés juste avant 20h. Ils venaient de débuter leur entraînement de basket.
En entraînement de 19h30 à 21h30, ben, on est limité. Par exemple, là, comme l'entraînement commence avant 20h, là, on y va. Mais par exemple, maman, elle travaille, elle devrait sortir de son travail pour venir me chercher à l'entraînement.
Et pendant 2 mois, la mère de l'adolescent devra donc venir le chercher à l'entraînement alors qu'il n'habite qu'à quelques centaines de mètres du terrain de basket.
1 mois après la démission du proviseur de la cité scolaire Maurice Travel à Paris, 3 suspects, auteurs de menaces de mort contre le chef d'établissement, sont jugés à partir d'aujourd'hui. Ils sont accusés d'avoir propagé des rumeurs et des messages de haine après une altercation fin février, lorsque le proviseur a demandé à une élève de retirer son voile. Protection des données, arnaque sur Internet, pratique jugée illégale. La CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté, a reçu l'année dernière 16 000 signalements, un record, un tiers de plus qu'en 2022. Parmi les sujets d'inquiétude, il y a aussi la vidéosurveillance, 1 millier de plaintes. Qu'en sera-t-il donc des caméras augmentées avec une intelligence artificielle capable de repérer des situations à risque? Avant leur déploiement pendant les JO, un test était mené jusqu'à hier dans des lieux stratégiques en région parisienne. Les résultats définitifs seront communiqués plus tard, mais malgré la réticence des associations, la présidente de la CNIL, Laure Denis, est pour le moment satisfaite.
C'est dans l'espace public que s'exerce un certain nombre de libertés fondamentales, le droit de manifestation, la liberté de culte. Tout le monde n'a pas à savoir si vous rentrez dans une église, dans une synagogue, dans une mosquée, par exemple. Et je constate que, alors qu'ils n'étaient pas obligés de venir nous voir, les fournisseurs d'algorithmes, avant qu'ils candidatent au marché déployé par le ministère de l'Intérieur pour retenir les fournisseurs d'algorithmes pour les caméras augmentées pour les JO, sont venus nous voir spontanément parce qu'on avait offert nos services pour qu'on puisse les accompagner pour qu'ils prennent bien en compte le développement de leur système, les enjeux de protection des données. Et ça a permis aussi à la CNIL de soulever le capot un peu de ces engins et de s'assurer que les préconisations qu'elle fait soient vraiment pragmatiques et opérationnelles. Par ailleurs, la CNIL a des pouvoirs répressifs et diligentera en temps réel les contrôles nécessaires pour s'assurer que les garanties que doivent respecter ces caméras dites augmentées ou intelligente soit bien respectée.
Laure Denis, la présidente de la CNIL. La date de la dernière séance est confirmée pour le cinéma UGC Normandie des Champs-Élysées à Paris. Le groupe UGC vient d'officialiser une fermeture à la mi-juin après des mois d'efforts pour tenter de conserver cette salle parisienne mythique. Mais le loyer et la transformation de l'avenue autour du luxe et du tourisme ont eu raison de son existence. Le temps est donc venu des rétrospectives à partir de mercredi prochain. Des séances spéciales et des masterclass vont revenir sur l'histoire de ce cinéma qui aura donc compté jusqu'au bout, Adrien Toffolet.
Le 11 avril encore, Thierry Frémaux y dévoilait la sélection du 77e Festival de Cannes. Et quelques jours plus tôt, c'est l'actrice américaine Zendaya qui montait sur la scène devant l'écran pour y présenter en avant-première le nouveau film de Luca Guadagnino. Mais peu importe le prestige de cette salle de cinéma, peu importe son bel âge aussi, 90 ans, dont 50 ans avec le sigle UGC, sur les Champs-Élysées, la pression financière est tout simplement intenable, même pour un grand groupe. Samuel Loiseau est le directeur des opérations du UGC.
La fréquence, elle baisse parce que l'évolution touristique est très événementielle de la plus belle avenue du monde est très claire, il suffit de s'y promener. La conséquence de tout ça, c'est qu'il y a une très forte augmentation des loyers avec un emplacement aussi prestigieux sur les Champs-Élysées. Donc moins de fréquentation et des loyers toujours plus hauts, c'est un effet ciseau et qui économiquement a été plus viable pour le groupe UGC. Donc c'est une décision qu'on n'a pas prise de gaieté de cœur, mais qu'on était obligé de prendre.
Le groupe ne délaisse pas pour autant Paris, loin de là. 12 complexes parisiens pour près de 130 salles en exploitation au total, certaines dont la capacité a été augmentée ces dernières années. L'UGC Normandie restera toutefois celui qui a vu passer les époques. On y a projeté les premiers Walt Disney, Sacha Guitry comme Alfred Hitchcock, Leni Riefenstahl pendant l'occupation, les nouvelles du monde libre à la Libération et tout le cinéma qui a suivi. La concurrence a été rude entre l'Arc de Triomphe et la Concorde, avec de nombreux cinémas qui ont contribué, du temps de l'âge d'or dans les années 60 et 70, à faire des Champs-Élysées la vitrine du 7e art. À la fermeture du Normandie, il n'en restera qu'un, le Publicis, tout proche de Vuitton.
Et pour aller plus loin, vous retrouvez en une de notre site internet un article « Il était une fois les Champs-Élysées du cinéma ». Nous évoquions hier le nombre record de jours de chaleur extrême en 2023. Ce dérèglement climatique devient de plus en plus visible sous l'eau. Les scientifiques alertent sur un blanchissement accéléré des coraux sous l'effet du réchauffement des océans. Cette décoloration, signe de mauvaise santé, pourrait à terme menacer tout l'équilibre de la vie aquatique, un désastre redouté dans les États insulaires très dépendants de cette ressource. Notre correspondant dans les Maldives, Sébastien Farcy, a pu suivre une équipe de biologistes lors d'une opération de protection des coraux.
Sur une petite île au large de la capitale malais, l'association Reefscaper mène un grand projet d'observation et de propagation des coraux. Et les images prises ces derniers jours font peur à Kate Sheridan, biologiste marine et responsable de l'antenne.
Nous sommes très inquiets de voir des colonies entières de coraux blanchir ces jours-ci. Celle-ci, par exemple, est très pâle. C'est une réponse dramatique au réchauffement.
Tout autour, l'océan Indien se réchauffe et les coraux ont du mal à le supporter. Le blanchiment est le signe d'une poussée de fièvre et si la température ne retombe pas, le corail meurt. Par chance, ces biologistes ont fait pousser des coraux sur des structures mobiles et peuvent donc les bouger.
Nous déplaçons les structures qui sont près de la surface vers les profondeurs où il fait plus frais, mais de manière progressive, jusqu'à 5 mètres plus profond pour ne pas entraîner de choc thermique. Les colonies plus profondes ne blanchissent pas autant, donc c'est encourageant, mais c'est encore imprévisible.
La majorité des coraux qui ont poussé naturellement, eux, ne peuvent pas être déplacés et il y a peu de moyens de les protéger contre cette vague de réchauffement des mers.
Et on termine avec un mot de météo avec un temps froid mais sec sur la majorité du pays. Seule exception, les Pyrénées-Atlantiques où des averses sont attendues ce matin. Quelques gouttes aussi cet après-midi dans les Alpes-Maritimes et le sud de la Corse. Les températures, il fait ce matin en pleine entre moins 2 et 2 degrés, de 3 à 8 en général. Et cet après-midi de 9 à 13 de l'Auvergne au nord-est et de 13 à 16 sur la Bretagne, le sud-ouest et la Méditerranée.